toda palabra.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission À l'air livre. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisqu'elle est plus courte que d'habitude et qu'elle rentre dans le cadre de la thématique proposée par Radio Grenouille en ce moment, Chérie, fais-moi peur. Trois entretiens très brefs que je vous propose avec trois auteurs qui ont bien voulu réagir sur cette thématique. Christian Garcin, Jean-Jacques Vuitton, Emmanuel Darley. Et puis une lecture d'un auteur irlandais, MacLiam Wilson, qui sera suivi, d'abord la lecture est en anglais, il sera suivi de sa traduction en français effectuée par une comédienne. On commence avec Christian Garcin, que j'ai déjà reçu pour l'émission À l'air livre, pour une précédente émission. Son dernier ouvrage, c'est La piste mongole, paru aux éditions Verdier en 2009. Un écrivain discret mais qui voyage et écrit beaucoup. Sa première peur me concerne un peu.
Il y a une multitude de choses qui me font peur. L'une d'elles, ce sont les interviews. Parce que, en fait, je n'arrive vraiment à organiser mes pensées qu'à l'écrit. Et à l'oral, j'ai toujours l'impression de courir après la pensée que je suis en train de penser. Ce qui fait que ça provoque un esprit d'escalier au carré, qui fait que je me dis le lendemain ou le surlendemain, tiens, j'aurais dû répondre ça à cette question et je ne l'ai pas fait. Comme beaucoup de monde, hein, mais vraiment, donc, j'appréhende énormément les interviews. Et la deuxième chose que je pourrais signaler qui me fait peur, c'est une peur plus profonde, c'est l'eau. Et comme je crois assez à la psychogénéalogie et comme j'ai pas mal d'ancêtres qui sont morts, qui étaient des navigateurs, qui sont morts noyés, qui ont été soit débarqués par-dessus bord, soit qui ont subi des tempêtes, alors que je nage plutôt bien en vérité, enfin j'ai jamais eu de problème pour nager, que ce soit la mer ou la piscine, mais quand je suis dans l'eau, j'ai souvent des accès d'angoisse comme ça qui me prennent. Voilà, ce sont deux des peurs parmi des multitudes d'autres que j'ai.
Est-ce que, juste une question pour compléter, est-ce que ça peut être un moteur d'écriture à un moment ?
Ces deux peurs-là, non, sans doute, non. En revanche, il doit y avoir des choses plus enfouies, peut-être, qui sont générateurs d'images, oui, peut-être, qui deviennent des moteurs d'écriture. Mais là, c'est tellement enfoui que je ne les discerne très mal, quand même.
Après Christian Garcin, sa peur de l'intervieweur et sa peur de l'eau, son questionnement sur ce que ça peut générer de manière inconsciente dans son écriture, je vous propose d'écouter Jean-Jacques Vuitton, poète marseillais, souvent associé à Liliane Girardon, puisqu'il forme un couple tant à la vie qu'à l'écrit, qui lui parle d'une peur insoupçonnée pour un homme tel que lui.
Je ne peux pas dire que la peur m'habite, c'est pas vrai, mais certaines peurs m'habitent, bien entendu. Et je me suis rendu compte un jour que je me disais, ou on me demandait, vous écrivez pourquoi ? Et je disais, j'écris parce que en écrivant, je n'écris pas énormément, mais enfin j'écris quand même assez souvent, quoi. Les livres me construisent un mur qui me protège de l'extérieur.
Ouais.
Et que c'était, alors que, et que c'était quelque chose qui me protégeait, donc qui me coupait de cette peur que j'ai. C'est une espèce de peur. Pas m'étendre maintenant là-dessus. Mais j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose de très rassurant d'écrire. Parce que ça me coupait l'extérieur, donc, de contact.
Oui.
Alors que souvent, je suis toujours troublé par les gens qui disent moi j'écris parce que ça me permet d'avoir des relations à l'extérieur, comme ça un contact permanent et tout. Alors que moi, c'était vraiment une espèce de construction de bunker.
Oui, une protection.
Oui. Voilà, je voulais dire ça sur la peur. Parce que ça, c'est l'initial. La première fois que je me suis rendu compte que j'avais peur, de quoi ? Je ne sais pas exactement de quoi. Mais on n'est pas dans un bureau de psychanalyste.
Non, non, non.
Donc, je dis ça parce que c'est vrai. Je me suis rendu compte que écrire me construisait quelque chose qui me séparait de l'extérieur.
Après Jean-Jacques Vuitton, je vous propose d'écouter à présent l'écrivain irlandais Robert MacLiam Wilson. L'auteur de Ripley Bogle, Les Dépossédés, La douleur de Manfred et Eureka Street, qui sont tous parus chez Bourgois. J'avais invité Robert McCamilson à Paris, à la BPI, dans le cadre de la manifestation d'encre et d'exil, les rencontres internationales des écritures de l'exil, qui se sont tenues en novembre 2009 à la BPI et à la librairie de Merlemoker. Cette édition était consacrée aux îles, avec une thématique intitulée « Insulaire ». Lui, Robert McCamilson, a quitté son île depuis de nombreuses années, mais il a décidé de répondre à cette invitation en écrivant un texte où il associe, vous allez l'entendre, son statut d'insulaire et les phobies qu'il peut éprouver, de très très nombreuses phobies. Il lit ce texte d'une dizaine de minutes environ en anglais, et la traduction sera lue par une comédienne dans la librairie de Merlemoker.
I hate islands. Well, I like them maybe. I can't remember anymore. I hate the little ones. I hate the big ones. I hate the little fat ones, and I hate the long thin ones. I really hate the long thin ones. I hate the hot ones, and I hate the cold ones. I hate the wet ones, and I hate the dry ones. And I love them, I think. What is an island? It's a disappointed mountain. It's a scrap of ground. It's the leftovers from continents. It's a stopover for ships going to important places. They're little drops of land in the sea. The sea, I hate that as well. It's taken me a certain time to work out what makes me an islander, to understand what that has to do with fear. And to explain to you, I'd like to put a question to you. Are you frightened? You can tell me. Are you frightened? It's a great question. The power and intimacy of those three words is quite remarkable. They're so direct. They're so without ambiguity. They're so deep. But the most remarkable thing is how much they fucking scare me. Because the question, are you scared? The reflex of the continental is to reply yes, or no, or maybe. The islander, from his island, thinks immediately, not yes, or no, or maybe. It's visceral, it's almost biological. When you ask an islander, are you scared? The islander thinks, shit, should I be? Fear encircles us. Menace is everywhere, literally. You people with borders, with frontiers, you people are comforted by the presence of others between you and the menace. But an island is like a wagon circle in a cowboy film. It is the square of soldiers on the field of battle. An isle is already a state of emergency, a defense assumed, a last chance. I hate islands. Look what they've done to me. Nowadays, everything is fear. Fear is modern. Fear is very 21st century. You continentals, you're almost on the point of catching us up. In the rich and developed world, we are on the point where people are more safe and secure than they have ever been, where we have a longer life expectancy than anyone in the history of humanity. We're all dissolving into puddles of fear. And the world, insular or continental, is starting to reflect that back. The September 11th attacks in New York are straight out of the phobic's handbook. They were deeply intelligible to the dismayed among us. They extend the range of realistic and realizable apprehensions. They had everything, those attacks. They had surprise, malice, death. They had knives, planes, fire, explosions, people falling from high buildings, suffocation, entrapment, and collapse. They were a definitive escalation of private nightmare. They brought third world fear and insecurity to us, the most protected people in the history of the world. And now we're all scared, but especially me. Fear is beginning to be our dominant emotion, but especially mine. Fear has changed us on the evolutionary scale, but me, most of all. I'm really scared. I'm not sure I have any other form of emotion anymore. I'm scared of everything. I'm even seriously scared of nothing. When I can't think of anything to be frightened about, I get scared about not being scared. That seems really scary to me. I'm phobic, deeply, multiply phobic. I'm claustrophobic and agoraphobic at the same time. I can't go out or stay in. Naturally, I'm terrified of heights, spiders, and flying. But I sometimes fear cheese, televisions, or bicycles. I have a basic group of permanent and reliable phobias, but I lighten their monotony with a series of sporadic visitors. Paper, flowers, Egyptians. They hang around for a week, and then they leave seamlessly. Occasionally, there are one-offs. After more than 33 years of being me, these still can surprise me. I never laugh. It's never funny. But the week when I suffered a literally crippling dread of my own feet was quite spectacular. I spent a week lifted on and off the toilet with my feet encased in a wooden fruit box stuffed with handkerchiefs. What are friends for? I kept asking my friends. Just 2 days ago, I woke feeling phobic. How can you feel phobic? I tried to overcome it. I tried to get on with my day. I failed. Sometimes being super scared is like always living in a foreign city where you don't speak their language and they haven't even heard of yours. The merest exchange is fraught with difficulty. The grammar and syntax of fear is arcane, obscure, and certainly not transactional. Buying cheese requires months of planning, and it can all go wrong so easily. Today, for example, I'm experiencing a complex range of customary morbid fears. I am suffering from agoraphobia, the fear of open spaces, the fear of leaving a safe place. I am big with aglophobia, bibliophobia, dextrophobia, idiophobia, memnophobia, phronophobia, poinophobia, and theophobia. That's the fear of pain, the fear of books, the fear of objects at the right side of the body, fear of ideas, fear of memories, fear of thinking, fear of punishment, and fear of gods or religion. I should point out that all this time I am completely nomatophobic, i.e. suffering from a morbid fear of names. These fears are foregrounded, infinitely detectable. I can smell and taste them with every breath. I wear them like a cologne or a new tie. I can fucking alphabetize my fears. There is the usual and entirely predictable calignophobia, the fear of beautiful women. There is dysabilophobia, my fear of undressing in front of someone. How could I forget the permanent sensation of hedonophobia, the lamentable fear of feeling pleasure? But most tragically for me, ichthyophobia is another constant. The fear of seeing, thinking about, or having an erect penis. Amongst the K's, we've got coinophobia, fear of rooms, cosmicophobia, fear of the cosmos, not forgetting omnitophobia and onirophobia, fear of eyes and fear of dreams. And all this is to forget the universals, the fears we all share, the reasonable ones. I suffer from a constant dread of being forgotten or ignored. That is, I am athazagaraphobic. I endure the tautological twins, epistemophobia and nosanophobia. So good they named it twice. The tremendous fear of knowledge. And like everyone else on the planet, like the grand unphobic majority, I have traumatophobia and tyrannophobia, the fears of injury and of tyrants. Have you ever heard of anything more reasonable to be frightened of? It goes without saying that I am phobophobic. I have a very morbid fear of phobias. However, my real problem, my truly crippling disability, is my panophobia. It seems clear when I see the frightened man who lives in my bathroom mirror. There's a lot of panophobia there. He's very panophobic, that guy. You probably spotted it already. Yeah, you guessed it. Me, I have a fear of everything.
Une traduction de Judith Steiner.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est vachement bien traduit.
C'est vrai. Je déteste les îles. À moins que je ne les adore, je ne sais plus. Je déteste les petites îles. Je déteste les grandes îles. Je déteste les grosses rondes. Et je déteste les petites fines. Je déteste particulièrement les petites fines. Je déteste les chaudes et je déteste les froides, les humides et les sèches. Et je les adore. Enfin, je crois. Une île, c'est quoi ? Une montagne déçue, un bout de terre, un reste de dérive des continents, une escale sur la route de navires qui vogue vers des endroits importants, des petites gouttes de terre entourées de mer. La mer aussi, ça je déteste. Ça m'a pris un certain temps de saisir ce qu'était un insulaire, de comprendre que cela avait quelque chose à voir avec la peur. Pour vous expliquer, j'aimerais vous poser une question. Vous avez peur ? Ah, vous pouvez me le dire. Est-ce que vous avez peur ? C'est une excellente question, n'est-ce pas ? La puissance et l'intimité de ces trois petits mots n'est-elle pas remarquable ? Ils sont tellement directs, sans ambiguïté, profonds. Mais le plus remarquable, c'est leur putain de pouvoir de me foutre la trouille. Parce qu'à la question « t'as peur », le réflexe du continental, c'est de répondre « oui » ou « non » ou « peut-être je ne sais pas ». L'insulaire, lui, depuis son île, pense immédiatement, c'est viscéral, quasi biologique, « merde, est-ce que je devrais avoir peur ?» Une île, c'est comme le cercle formé par les trains dans les films de cow-boy. C'est le carré des soldats sur le champ de bataille. Une île, c'est déjà une urgence, une défense assiégée, une dernière chance. Je déteste les îles. Regardez ce qu'elles ont fait de moi. Désormais, tout est peur. La peur est tellement moderne. La peur est très 21e siècle. Vous autres, continentaux, vous êtes presque sur le point de nous rattraper au rayon des peurs primales. Dans le monde riche et développé où nous sommes, pourtant plus en sécurité que jamais, où nous avons la plus longue espérance de vie de l'histoire de l'humanité, nous nous dissolvons tous en flaques de trouille. Et le monde entier, île, continent, est devenu le miroir de nos peurs. Les attaques du 11 septembre à New York sortaient tout droit du manuel du phobique. C'est un événement que nous autres, atterrés, comprenons profondément, qui a élargi l'éventail des appréhensions réalistes et susceptibles de se réaliser. Tout y était. Surprise, malice, mort. Couteau, avion, incendie, explosion. Gens se jetant du haut des buildings, étouffement, piège, effondrement. C'est l'escalade ultime du cauchemar personnel. Les événements du 11 septembre ont apporté la peur et l'insécurité aux gens les plus protégés de l'histoire du monde. Et maintenant, tout le monde a peur. Surtout moi. La peur est en train de devenir notre émotion dominante, l'interface de notre compréhension du monde. La peur commence à nous changer à l'échelle de l'évolution. Surtout moi. Bientôt, nous serons des créatures de pure peur, des agents de la peur, des produits de la peur. Moi surtout. J'ai vraiment peur. Je ne suis pas sûre de ressentir encore d'autres émotions. J'ai peur de tout. J'ai même sérieusement peur de rien. Quand je ne sais pas de quoi avoir peur, j'ai peur de l'absence de peur. Voilà quelque chose de vraiment effrayant à mes yeux. Et je suis phobique, profondément, multiplement phobique. Je suis claustrophobe et agoraphobe en même temps. Je ne peux ni sortir ni rester à l'intérieur. Évidemment, parfois, je suis paralysée par le vertige, terrifiée par les araignées et j'ai peur de l'avion. Mais parfois, j'ai aussi peur du fromage, des télévisions ou des bicyclettes. J'ai mon fidèle groupe de phobies de base, permanente. Mais j'en allège la monotonie avec une série de visiteuses sporadiques. Le papier, les fleurs, les Égyptiens. Elles restent dans le coin une petite semaine. Elles se barrent, remplacées sans heurts par quelque autre terreur temporaire. De temps en temps, il y a des arrivages exceptionnels, flambant neufs. Même après avoir passé plus de 33 ans dans ma propre peau, ces arrivées à l'improviste n'ont rien perdu de leur capacité de me surprendre. Je ne ris jamais, ça n'est jamais drôle. Mais la semaine où j'ai développé une terreur littéralement invalidante de mes propres pieds fut véritablement spectaculaire. J'ai passé une semaine à me faire soulever des toilettes, les pieds dans une cagette de fruits, bourrée de mouchoirs parfumés. Mes amis se sont chargés des opérations, le cœur au bord des lèvres. À quoi servent les amis ? Que je leur répétais. Parfois, avoir super peur, c'est comme vivre dans une ville étrangère dont vous ne parlez pas la langue, et où personne n'a jamais entendu parler de la vôtre. Le moindre échange relève de l'exploit. La grammaire, la syntaxe de la peur est impénétrable, obscure et certainement pas transactionnelle. Un truc comme acheter du fromage peut exiger des mois de préparation. Et c'est une entreprise qui peut mal tourner tellement, mais tellement facilement. Aujourd'hui, par exemple, je subis un éventail complexe de banales peurs morbides et d'allergies morales coutumières. Comme d'habitude, je souffre d'agoraphobie, la peur des grands espaces ou de la foule dans un lieu public. Je connais aussi la peur de quitter un lieu sûr. Comme d'habitude, je suis à fond, niveau agliophobie, bibliophobie, dextrophobie, idéophobie, mémnophobie, froménophobie, poinophobie et théophobie. Ce qui se traduit grosso modo par peur de la douleur, peur des livres, peur des objets placés à droite du corps, peur des idées, peur des souvenirs, peur de penser, peur des dieux et de la religion. Je dois sans doute signaler que pendant ce temps, je suis également profondément nomatophobique, à savoir que je souffre d'une irrésistible terreur morbide des noms. Ces peurs sont immanquables et infiniment détectables. Leur goût, leur odeur m'envahissent à chaque respiration. Je les porte sur moi comme une eau de Cologne ou une cravate neuve. N'importe qui peut les repérer de loin. Il existe d'autres peurs, rôdeuses, régressives, qui ne me rappellent qu'occasionnellement leur présence d'un violent pincement d'horreur ou d'un tremblement hébété et qui, au moment où je vous parle, me font descendre le cœur dans les talons. Je suis même capable de les ranger en suivant le putain d'ordre alphabétique, si j'en trouve le courage. Il y a la banale et prévisible caligénéphobie, la peur des femmes belles. Il y a la déshabilléphobie, ma peur de me déshabiller devant quelqu'un. Et comment pourrais-je oublier la sensation permanente d'hédonophobie, la lamentable peur de ressentir du plaisir. Hélas pour moi, je ne me débarrasse jamais non plus de mon nitiphalophobie, la peur d'un pénis en érection, en voir un, y penser, ou pire, en avoir un. À la glorieuse lettre K, nous avons la coinophobia, peur des pièces closes, et la cosmicophobie, la peur des phénomènes cosmiques. N'oublions pas les scrupuleuses jumelles, ométaphophobie, onéoriophobie, respectivement peur des yeux et peur des rêves. À l'évidence, nul besoin de mentionner ma pédophobie, ma constante, fidèle peur des enfants. Avec tout ça, passons sur les peurs universelles, celles que nous partageons tous, les peurs raisonnables, et les amis des écrivains. En tant que romancier professionnel, je suis naturellement atasagoraphobe. Je souffre d'une terreur constante d'être oublié ou ignoré. J'endure aussi les jumelles tautologiques, épistémophobie et gnosiophobie. Celle-là, elle est tellement bonne qu'ils lui ont donné deux noms. La terrible terreur du savoir. Comme n'importe qui sur cette planète, comme la vaste majorité non-phobique, je souffre aussi de traumatophobie et de tyrannophobie, peur d'être blessé et peur des tyrans. Connaissez-vous inquiétude plus normale ? Et puis, ça va sans dire, je suis phobophobique. J'ai une peur extrêmement morbide des phobies. Cela dit, je pense que mon vrai problème, mon handicap le plus handicapant, c'est ma panophobie. Ça me semble clair quand je vois l'homme atterré qui vit dans le miroir de ma salle de bain. Grosse, grosse, grosse dose de panophobie là-dedans. Il est très panophobique ce type. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Ouais, vous avez deviné, moi, j'ai peur de tout.
Merci.
Voilà, c'était donc un texte lu par Robert McLiam Wilson sur le statut d'insulaire et sur ses peurs, ses phobies. Cette lecture a été effectuée par lui-même et la traduction a été assurée par la comédienne Martine Coste. C'était à la librairie de Merle-Moqueur en novembre 2009 dans le cadre des écritures, des rencontres internationales des écritures de l'exil, d'encre et d'exil avec la thématique insulaire. À présent et pour terminer, je vous propose d'écouter un romancier et auteur pour le théâtre, Emmanuel Darlet, que j'ai reçu il y a assez peu de temps à Marseille. Son dernier roman est paru chez Actes Sud et s'intitule Le Bonheur. Sa dernière pièce de théâtre, c'est Le Mardi à Monoprix chez Actes Sud Papier. Lui nous parle de deux peurs opposées qui provoquent des réactions pratiquement antagonistes chez lui.
En fait, pour moi, la peur, d'un côté, c'est une chose très positive. C'est-à-dire qu'individuellement, je trouve que la peur, c'est un très bon moteur. La peur de l'avenir, la peur dans la rue, la peur... C'est une chose qui donne une belle énergie. Mais ça, c'est individuellement. Et par contre, la peur, sinon, c'est une chose que je déteste. C'est la peur aujourd'hui, comme moteur de société. C'est une chose vraiment que je vomis. La peur au moment des élections, comme ça, espèce de truc qu'on ressort régulièrement, comme ça, d'une peur collective, d'une peur de tout. Plus ça va, plus on est dans la peur au quotidien. Et voilà, ça, c'est vraiment une horreur.
Con toda palabra, con toda sonrisa.
Voilà, c'est la fin de cette spéciale Air Livre sur la peur. Le mois prochain, nous retrouverons le rythme normal de l'émission, premier mercredi du mois, comme d'habitude. À bientôt.
Me acerco a l'angua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo.